Voici les titres du journal.
100 jours en fonction, Franz Ruppen a tiré hier un premier bilan positif de son activité de nouveau conseiller d'État valaisan. Vous l'entendrez dans ce journal nous dire qu'il est soucieux des régions périphériques et notamment du Chablais. Un important dispositif de pompiers déployé hier sur le site chimique de Monté, mais pas d'inquiétude à avoir, il s'agissait en effet d'un exercice. Reportage réalisé sur place tout à l'heure, il est signé Quentin Frey. Des randonneurs vont partir à la recherche de goûts et de couleurs ce week-end dans les Alpes vaudoises. La 14e édition du Villard Rando Festival proposera au public une quarantaine de balades thématiques. La rentrée sociale promet d'être chaude et combative en Suisse en lien avec la réforme des retraites. C'est le président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, qui l'affirme. Du sport aussi, dans ce journal en tennis, la relève mondiale rendez-vous sur la Riviera dès la semaine prochaine. Organisée par le Tennis Club de Montreux, la 5e édition du L Spirit Open se tiendra du 6 au 12 septembre.
Un temps assez ensoleillé, c'est ce qui nous attend pour cet après-midi et même pour ce week-end. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Le conseiller d'État valaisan Franz Ruppen est satisfait. En tout cas, le ministre valaisan UDC de la mobilité, du territoire et de l'environnement a dressé hier à Sion un premier bilan plutôt positif de son activité au Conseil d'État. Conseil d'État où il siège depuis maintenant une centaine de jours. Troisième correction du Rhône, autoroute A9 et entretien des routes, mobilité, dangers naturels, sites pollués. Territoire. Le Haut-Valaisan a hérité d'un département où les difficultés et les défis sont nombreux et où tout s'enchaîne très vite. Mais cela ne l'empêche pas, il nous l'a confié hier, d'éprouver une sensibilité certaine pour les régions périphériques.
Je viens d'une région périphérique, j'ai une très grande sensibilité, je l'avais aussi quand j'étais comme conseiller national à Berne, comme représentant d'un canton périphérique, canton de montagne, mais j'ai aussi une grande sensibilité pour le Chablais, j'étais beaucoup dans le Chablais pendant la campagne, et les Haut-Valaisans, on se sent toujours un peu lâché par le centre, mais j'ai remarqué que le Chablais se sent aussi, ou même beaucoup plus que le Haut-Valais, lâché, et je pense on a beaucoup de projets dans le Chablais qui sont en cours. La ligne du Sud Le Mans et puis rallier Monté à la ligne CFF, mais aussi le terminal combiné de Monté qui a un très beau projet pour la région, pour la ville de Monté, parce qu'on sécurise le centre-ville de Monté qui a plus le trafic pour les sites chimiques qui passent par la ville.
Ce dossier traîne déjà depuis passablement de temps, il va avancer très rapidement maintenant?
J'espère qu'il va avancer, on voudrait commencer en 2022-2023, il y a encore une position qui est à traiter, mais dès que c'est réglé, on va vraiment avancer avec le projet.
Un gros souci dans le Chablais, le tunnel des Évouettes.
Oui, le tunnel des Évouettes qui bouge, d'ailleurs comme le tunnel Ripperc dans le Haut-Valais. Maintenant, on est en train de trouver des solutions techniques. Mes ingénieurs m'ont dit qu'ils ont trouvé une solution et on travaille là-dessus, on vérifie. Et cette solution, il y a des surcoûts, mais avec ces surcoûts, on reste quand même dans le cadre qui était voté par le Grand Conseil.
Du pain sur la planche. Franz Ruppen, on l'a compris. Quelles sont vos priorités, les urgences, les vraies urgences?
Les priorités ou les urgences, c'est l'avancement avec l'autoroute dans le Haut-Valais. Il faut après avancer avec le projet de Rond 3. Ça, c'est un grand défi. Mais aussi un grand défi pour nous, c'est qu'on gère l'héritage industriel, notre passé, les sites pollués, les sites contaminés. Ça, c'est un énorme défi. Et là, il y a encore quelques conseillers d'État après moi qui sont en charge du département, qui vont travailler là-dessus, parce que ça, c'est du point de vue technique, c'est un défi, mais aussi du point de vue financier. Et je pense qu'il faut laisser aux générations futures une plaine sûre, mais aussi une plaine propre.
Ce département, c'était le rêve pour vous?
Oui, j'étais conscient, les nouveaux venus, ils doivent prendre ce qui reste, mais on savait que les sortants, les trois, ils voulaient rester dans leur département. Et Mathias, il était plutôt pour la santé sociale. Et moi, j'avais vraiment l'intérêt de prendre la mobilité. L'aménagement du territoire et l'environnement.
Pas de regret donc?
Pas de regret, pas du tout.
Franz Ruppen évoquait la connexion de Monté avec la ligne CFF. Il fallait comprendre bien évidemment la ligne du Simplon. Il espère cette connexion à l'horizon 2045. La ligne ferroviaire du Sud Léman, quant à elle, pourrait être mise à l'enquête publique l'an prochain. Le budget 2022 de l'État du Valais a été présenté ce matin. Le Conseil d'État a opté pour un budget de continuité. Dans un contexte de sortie de crise progressive, il entend maintenir son soutien à l'économie cantonale avec des investissements investissement record de 643,2 millions de francs. Le gouvernement prévoit également d'augmenter les subventions à des collectivités et à des tiers à 1,55 milliard. Grâce aux différents fonds alimentés de manière préventive ces dernières années, les investissements et charges sont entièrement couverts. L'excédent de revenus se monte à 13,5 millions de francs et le résultat de financement boucle pour sa part à l'équilibre. Véronique Besson-Rouvinet succède à Yvan Aymon à la présidence de l'Association des entreprises Val Excellence. Après 20 ans d'existence, le label des organisations dites performantes et responsables va adapter ses critères afin d'être encore plus en adéquation avec l'agenda 2030. En effet, les critères d'octroi du label sont en cours de réexamen. La certification actuelle repose sur des normes internationales qui ne sont pas toujours adaptées aux spécificités d'une petite entreprise. C'est pourquoi le comité de l'association a décidé d'offrir une deuxième voie pour obtenir le label Val Excellence qui maintiendra le même niveau d'exigence mais sera basé sur les objectifs de l'agenda 2030.
Un exercice grandeur nature s'est déroulé hier chez Simo sur le site chimique de Montet.
Oui, il s'agissait d'un scénario d'accident de la circulation avec fuite de produits chimiques. Venus de toute la Suisse, quelques 50 pompiers ont participé à cette simulation qui s'est déroulée dans le cadre d'une formation pour les cadres sur les risques ABC, comprenait les risques atomiques, biologiques et chimiques. Cet exercice était mis en place par la coordination suisse des sapeurs-pompiers, la fêtière de la branche. Quentin Frey a assisté à cette démonstration.
Donc Philippe Diedrich, commandant du service d'intervention CIMO et commandant du cours ABC. Dans le cadre de ce cours, l'objectif, c'est vraiment pour les chefs d'intervention d'appréhender le problème, soit de constater les problèmes, apprécier la tendance et puis après prendre des décisions rapides. Imaginez-vous, avec une scène comme ça, en quelques secondes, le chef d'intervention doit amener l'axe où il veut aller pour ses forces d'intervention.
Il faut les CFF, couper la ligne de contact.
CFF, couper la ligne de contact.
Il faut du personnel supplémentaire en renfort. On a l'hôtel qui est à côté.
Personnel en renfort. Ok.
Le directeur de l'hôtel, j'aimerais savoir combien on a de personnes dans l'hôtel.
Ok, direction.
La priorité, c'est les CFF.
Ok.
Pour couper ça.
Ça marche.
Débaillé Pascal, je suis premier lieutenant sapeur-pompier professionnel au SPSL de Lausanne. Alors, je me suis occupé de ce qu'était l'équipe feu, donc l'équipe qui arrivait avec le premier gros camion. Et puis, la première mission, c'était effectivement, vous avez vu qu'il y avait deux sauvetages à effectuer, c'était déjà de prioriser et d'envoyer rapidement des équipes pour mettre à l'abri les deux personnes qui étaient concernées. Et ensuite, tout de suite, puisqu'on avait un départ de feu, établir une triple extinction avec de l'eau, de la mousse et de la poudre en sécurité.
Et au niveau des ambulances, j'ai reçu quittance, donc les ambulances vont arriver. Deux personnes blessées, brûlées. Deux personnes blessées, brûlées.
Et puis, vous préparez un extincteur de feu.
Aline Rapin, et je suis comédienne formatrice par le jeu de rôle. Là, en l'occurrence, on devait jouer deux personnes blessées et brûlées. Donc, effectivement, les cris allaient avec cette situation-là. Et oui, ça leur met de la pression, effectivement, parce que non seulement ils doivent arriver et, dans un premier temps, évaluer la situation dans son ensemble, mais ensuite, il faut intervenir sur les personnes et puis ben, voilà, gérer tout l'aspect humain avec les cris, les émotions et puis éventuellement des liens de parenté entre les gens, s'il y en a. Donc, c'est aussi un aspect qu'ils doivent gérer, du moins au mieux, pendant l'intervention.
Nickel. Moi, je tiens à tous vous remercier. Les chefs d'intervention, vous avez managé vos trucs, vous avez votre phase de chaos, vous avez peut-être été un petit peu surpris parce qu'on s'est approché au plus proche de la réalité, il y a des inconvénients. Moi, je tiens à vous féliciter pour une chose, c'est votre réactivité comme dans la vraie vie. On a un problème, on trouve une solution. Donc ça, à chacun, par rapport aux différents soucis que vous auriez pu rencontrer, bravo. Les instructeurs, la discussion a été nette, précise, concise, droite à l'essentiel, pas de blabla, pas de chichi. Terminé au bonus. Donc moi, je ne vais pas en faire davantage. Je vous félicite, vous êtes droit dans le tir. Bon rétablissement, merci pour le boulot, bon courage pour le reste de la journée. Et puis, on y va comme ça.
Bonne suite.
Voilà, un reportage donc réalisé par Quentin Frey avec en arrière-plan des cris qui effrayent. Notons encore que le site chimique de Simon est équipé pour ce type d'exercice. L'infrastructure permet notamment aux sapeurs-pompiers de s'entraîner avec d'authentiques produits chimiques. Michael Buffa est le seul membre de l'UDC Vaud à s'être déclaré candidat pour l'élection au Conseil d'État en mars prochain. Le comité central a soutenu à l'unanimité sa candidature qui doit désormais être validée le 7 octobre prochain par le congrès du parti qui se réunira à Prilly. La Cour constitutionnelle vaudoise a débouté les cliniques privées qui souhaitaient être indemnisées par le canton durant la première vague de coronavirus. La décision du Conseil d'État de débloquer 126,5 millions de francs, mais uniquement pour le CHUV et les hôpitaux subventionnés, a été jugée conforme au droit. Selon la Cour, il n'y a eu ni inégalité de traitement, ni arbitraire, ni violation de la neutralité concurrentielle de la part de l'État, a commenté ce matin le département vaudois de la santé et de l'action sociale, confirmant à Keystone ATS une information parue dans La Liberté, Le Courrier. L'arrêt rendu le 18 août, mais dont les détails ne sont pas encore connus, peut faire l'objet d'un recours au tribunal fédéral. La présidente du gouvernement vaudois, Nouria Gorité, estime nécessaire d'aider les communes après la vaste cyberattaque contre l'administration communale de Rolles. Dans une interview aujourd'hui à La Liberté, elle indique que le canton dévoilera à la fin de l'année sa politique et stratégie de la donnée. La conseillère d'État chargée du numérique et des systèmes d'information ne se dit pas surprise par la cyberattaque contre Rolles, parce que l'on sait à l'état de Vaud que les cyberattaques augmentent. On a enregistré un doublement de cas de rançon logiciel au cours de ces 10 à 15 dernières années, affirme-t-elle au journal. L'action Coup de balai se tiendra du 10 au 18 septembre dans le canton de Vaud. Durant cette semaine de sensibilisation, la population et les écoles sont invitées à ramasser les déchets abandonnés dans les espaces publics le long des routes et des cours d'eau ou encore en forêt. Avec le soutien de plusieurs associations et organisations, plus de 40 communes vaudoises y participeront, parmi lesquelles Vevey, Jonny et Saint-Légier, La Chiesa. Et puis dans le même registre, Monté organise le 11 septembre sa première journée de recyclage. L'organisation est de lutter contre le gaspillage en favorisant la réutilisation d'objets pouvant encore servir. Sur le parking du Pont Rouge, les habitants de la ville pourront déposer gratuitement des objets en bon état durant la matinée du samedi, lesquels seront librement mis à disposition durant l'après-midi. Intitulé « Donner au lieu de jeter », cette initiative pourrait devenir un rendez-vous régulier.
Les amoureux de randonnée ont rendez-vous dans les Alpes vaudoises ce week-end.
Le Villa Rando Festival revient pour la 14e édition dès demain. Près de 40 balades thématiques seront proposées au public pour découvrir ou redécouvrir la région. Des parcours pensés autant pour les amateurs que pour les accros des chaussures de randonnée. Tour d'horizon avec Sébastien Burdet, responsable animation et événements pour le festival, au micro d'Isabelle Bertolini.
Le thème 2021, c'est du goût et des couleurs. Donc, vous pouvez découvrir des balades à pieds nus, des balades, je dirais, gourmandes, où vous apprenez à découvrir les plantes comestibles et après à les cuisiner. Vous avez des choses un petit peu plus land art, je dirais, que ce soit pour grands ou pour petits.
C'est quoi les nouveautés de cette 14e édition ?
Les grandes nouveautés, c'est, je dirais, on a commencé l'année passée avec nos randos VIP, je dirais, avec des personnalités connues. Donc on a continué, on aura Paul McBonvin, le chanteur et musicien. On aura également le cuisinier Monsieur Didier de Courtonne qui sera présent. On aura aussi après des randos peut-être un petit peu plus sportives, qui vont sur les sommets qui les parcourent. Ça, c'est aussi des nouveautés.
Outre le cuisinier et le musicien, on peut aussi faire une balade avec un conseiller d'État, un conseiller national. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, de ces VIP? C'est d'entretenir la conversation?
Oui, alors l'accompagnateur, lui, s'occupera de tout ce qui est vraiment du parcours, de la randonnée, et puis le VIP, lui, va apporter le petit plus en discutant de son thème au milieu de la nature et essayer de faire participer tout le monde et puis de créer un petit peu le débat et puis les discussions.
Le conseiller d'État vaudois Philippe Lebas parlera politique et nature. Didier de Courtonne, lui, prodiguera quelques astuces de cuisine. On notera aussi que la manifestation organise également des concerts et animations sur la place d'Olon.
Des pierres pas comme les autres.
Oui, c'est comme cela que l'on pourrait parler des stèles valaisannes qui sont exposées dès aujourd'hui au pénitencier à Sion, issues de fouilles récentes mais aussi des années 60 et 80. Trois d'entre elles iront ensuite au Musée National Suisse à Zurich, puis au British Museum de Londres. Un voyage préparé avec minutie par le conseiller conservateur du musée d'histoire du Valais, Pierre-Yves Nicot.
C'est un très gros travail de conditionnement. Une fois que les restaurateurs ont fait le constat d'état, ils décident s'il faut faire des consolidations, une fois qu'ils ont décidé qu'elles pouvaient voyager. Donc là, il y a une première intervention, ils vont venir essayer de coller les petites fissures, de les maintenir le plus possible en place. Et après, le conditionnement est extrêmement important. Ces stèles sont emballées dans des caisses calées par de la mousse, des caisses qui sont emballées dans une deuxième caisse qui ensuite est fermée et qui va se déplacer avec un transporteur d'œuvres d'art agréé dans des véhicules adaptés à l'importance et à la fragilité de ces pièces.
Les stèles reviendront ensuite à Sion où les professionnels se remettront à les étudier. Précision avec l'archéologue cantonal valaisanne Caroline Brunetti.
Elles ont déjà eu une partie d'analyse, notamment sur les pigments qui sont en cours et tout ça. Et puis après, ce sera plutôt une étude. Elles vont être passées à la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on aura tous les détails qui vont être pris en prise de vue. Et puis après, ça va être un groupe probablement de chercheurs qui vont se poser à interpréter, en fait, l'iconographie, à interpréter ces stèles en fonction de ce qu'elles ont comme, comme parure et tout ça. Y a-t-il des hommes, des femmes? Pour l'instant, on n'a pas trouvé les femmes, mais où sont les femmes?
Qu'est-ce qu'on sait pour le moment de ces stèles, de ce qu'elles racontent?
Pour l'instant, les théories qui ont été menées dans les années 80, disons, disent que c'est des représentants des chefs de clan. Au fait, ce seraient des ancêtres, des semi-dieux, des divinisés et tout ça. Mais maintenant, il faut quand même que l'on relise tout ça à l'aune, puisque les nouvelles stèles que nous avons découvertes, elles sont en situation. Elles ne sont pas en réemploi comme celles qu'on avait découvertes au Petit Chasseur. Elles se trouvent vraiment à l'endroit devant le dolmen, donc le coffre funéraire où se trouvent enterrées de nombreuses personnes. Et donc on va pouvoir refaire toute cette histoire et reproposer une relecture.
Une relecture présentée idéalement au public en 2024. C'était un sujet signé Margot Reguin. Vevey participera à la 14e fête des voisins, après une annulation en 2020 et un report cette année. Celle-ci aura lieu le 24 septembre prochain. Le principe reste le même. Organiser des moments de partage entre voisins dans une cour d'immeuble, un jardin ou une allée. Les personnes souhaitant organiser ces petits rassemblements peuvent commander un kit dédié sur le site fetedesvoisins.ch. Concernant l'utilisation de l'espace public, il faut s'adresser à la commune via l'adresse lafetedesvoisins@vevey.ch ou au 021 925 53 14. Sa construction était attendue depuis plus de 13 ans. Le quartier Soulbourg à Aigle a enfin été inauguré ce soir en présence des autorités de la ville et des concepteurs, un moyen de célébrer la fin d'une longue saga qui avait vu notamment deux oppositions au projet aller jusqu'au tribunal fédéral. Les travaux budgétés à 50 millions de francs sont terminés depuis plusieurs mois. Soulbourg compte désormais près de 150 appartements. On y trouve également une quinzaine de commerces, dont un restaurant à sushi, un café, ainsi qu'une garderie. Le quartier est amené à encore évoluer. Une année et demie après l'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les Ains continuent à se développer dans le monde du freestyle. Quatre saisons, l'agrandissement de la zone de loisirs du centre sportif de Créteil-Jacquet en est la preuve avec un pump track réalisé ce printemps. Son ouverture officielle s'est déroulée le 31 juillet dernier. Ce samedi, les Ains inaugurent cette infrastructure au programme différentes démonstrations à de nombreuses disciplines ainsi qu'une partie officielle à 11h45 pour compléter ce week-end sportif. Une compétition de pump track réservée au vélo et ouverte à tous sera organisée avec plusieurs catégories. Dès 2016, les inscriptions sont possibles via le site internet www.sportlesains.ch ou directement sur place le dimanche 5 septembre 2021. Vous dire enfin que Vaud a désigné les lauréats de 4 concours d'intervention artistique, parmi lesquels figurent Martin Jacob pour l'extension du gymnase de Bury ainsi que Jean-Luc Mans et Mathéo Gonnet pour la future extension du tribunal cantonal à l'Ermitage à Lausanne. À l'occasion du vernissage de leurs travaux, a également été présentée l'application artlist.net qui recense, décrit, cartographie et géolocalise l'entier des interventions artistiques du canton. Les hôpitaux de Zurichois tirent la sonnette d'alarme face au remplissage rapide et élevé de leur secteur de soins intensifs. Ils appellent la population non vaccinée contre le Covid-19 à se faire inoculer afin de ne pas perdre le contrôle de la situation. Ainsi, les soins intensifs zurichois sont occupés à 90%, dont un tiers de malades du Covid-19. Ces chiffres se rapprochent de la situation de l'hiver dernier, bien plus tôt que prévu, a indiqué ce matin la Fédération des hôpitaux de Zurichois dans un communiqué qui constate que 9 patients atteints du Covid-19 sur 10 ne sont pas vaccinés.
année. Fois deux président de l'Union syndicale suisse, la rentrée sociale sera chaude et combative en Suisse.
Oui, les fêtières syndicales du pays appellent à une manifestation populaire devant le pays, le palais fédéral, le 18 septembre pour contester la voie choisie par une majorité du Parlement pour réformer les retraites. Pas question de faire passer l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, pas question non plus de laisser se développer une réforme du deuxième pilier défavorable à une grande majorité des futurs retraités. L'USS a tenté la voie du compromis en proposant avec l'Union patronale un modèle de réforme de la LPP. Une majorité du Parlement ne semble pas en vouloir. Place à la confrontation, affirme le président de l'USS, Pierre-Yves Maillard.
Malheureusement, c'est la droite du Parlement qui a choisi cette voie, puisque, en tout cas sur le deuxième pilier, nous avons fait un compromis avec l'Union patronale suisse. Ce ne sont quand même pas des gens qui sont particulièrement susceptibles, disons, d'être sensibles aux thèses syndicales et de gauche. La droite du Parlement est en train de défaire et même vraiment d'aller tellement loin dans la défense des gens les plus riches de la société qu'on doit constater qu'elle veut la confrontation. Alors évidemment, on y est prêt, mais on aurait préféré pouvoir réformer dans un esprit de compromis, malheureusement. Pour l'instant, en tout cas, on a l'impression que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes qui sont en jeu. On va s'engager le 18 septembre à vraiment montrer que les gens qui travaillent, les gens qui ont besoin de rentes suffisantes pour vivre, sont capables de se défendre.
La situation péjorée des femmes à la retraite constituera un accent particulier de la manifestation du 18 septembre. Aude Spang, du syndicat Unia.
On nous prétend que l'augmentation de l'âge de la retraite serait une mesure d'égalité, alors qu'en fait la situation actuelle est une situation de grande injustice pour les femmes. Quand on sait qu'un tiers d'entre elles ne vivent qu'avec l'AVS, que beaucoup dépendent de prestations complémentaires, vivent dans la pauvreté à la retraite, de venir parler d'égalité en disant que les faire travailler un an de plus et donc avoir un an de moins de rente, c'est un discours extrêmement cynique de la part de la droite et du Parlement de venir dire qu'il faudrait aujourd'hui augmenter l'âge de la retraite des femmes, travailler plus pour gagner moins. C'est absolument hors de la réalité concrète de ce que vivent les gens.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Pas touche à nos rentes, tel est le slogan de la manifestation annoncée pour le 18 septembre à Berne. Plus de 620 000 personnes âgées en Suisse ne bénéficient pas d'un soutien adéquat en matière de soins. Il manque actuellement 20 millions d'heures de prise en charge. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par la Fondation Paul Schiller. Dans le domaine de la prise en charge du troisième âge, la nécessité d'agir se fait de plus en plus sentir, indique la Fondation. En raison de l'évolution démographique, la Suisse comptera en 2050, deux fois plus de personnes de plus de 80 ans qu'aujourd'hui.
Un chardonnay australien, vin proposé par la COP, se voit attribuer la pierre du diable.
Oui, il s'agit du cactus infligé par l'association de l'Initiative des Alpes au transport le plus absurde. Et c'est d'autant plus absurde que le chardonnay est un cépage de nos régions. Son transport émet par bouteille plus de 300 grammes de CO2, de quoi gonfler 60 ballons. Le prix a été remis hier à la COP à Bâle et au-delà de la prise de conscience des effets négatifs du transport des marchandises, l'Initiative des Alpes fait sa promotion du commerce local. Écoutez Isabelle Pasquier, membre du comité de l'Initiative des Alpes et conseillère nationale verte.
Cet enjeu, c'est l'augmentation constante du transport des marchandises et le poids qu'elle fait peser sur la collectivité parce que voilà, chaque transport implique des coûts externes et notamment des émissions de CO2 nuisibles pour le climat. Cette année, nos membres et sympathisants ont choisi le vin. C'est un choix courageux. Les votants ont ainsi montré qu'ils désapprouvent finalement le fait de faire venir d'aussi loin un vin alors qu'un tel produit peut facilement être obtenu en Suisse. Et je pense qu'il y a une symbolique encore plus importante cette année parce qu'il montre aussi l'importance de soutenir le commerce local.
Des propos recueillis par Serge Jubin, encore notre correspondant parlementaire, a noté que le cristal de roche, qui est le prix de la bonne pratique climatique et écologique, va à la société de recyclage Revendo, qui répare les téléphones portables et les ordinateurs ou prolonge leur durée de vie.
Un homme proche du groupe djihadiste État islamique a poignardé aujourd'hui 6 personnes.
Les faits se sont déroulés dans un supermarché d'Auckland avant qu'il soit tué par la police. Le suspect était surveillé en permanence par des agents en civil. La première ministre Jacinda Ardern s'est dit dévastée par le fait que cet homme ait pu commettre cette attaque détestable alors qu'il était placé sur la liste antiterroriste. Ce Sri Lankais arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011 est entré dans un centre commercial de la banlieue d'Auckland. Il s'est emparé d'un couteau sur un présentoir et a commencé à poignarder des passants, a-t-elle précisé. Selon Jacinda Ardern, 6 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, avant que les policiers qui le surveillaient n'ouvrent le feu dans la minute qui a suivi le début de l'attaque. Les restrictions liées à la pandémie de coronavirus l'année dernière ont contribué à une importante baisse des émissions des principaux polluants de l'air, notamment en zone urbaine, mais cette réduction n'a pas été uniforme, a affirmé l'ONU aujourd'hui à Genève. Dans son premier bulletin sur le climat et la qualité de l'air, l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, montre qu'à la fois des épisodes d'amélioration et de détérioration de l'air ont été observés dans différentes parties du monde, notamment en Chine, dans le nord du continent américain ou en Europe. Pour autant, le bulletin révèle aussi que de nombreuses régions du monde restent en violation des directives de l'Organisation mondiale de la santé. Malgré la réduction des déplacements l'année dernière, l'OMM a analysé des données dans plus de 60 sites de 25 pays. Sachez aussi que le Royaume-Uni va envoyer 4 millions de doses de vaccins à l'Australie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre du pays, Scott Morrison. L'île peine à endiguer une vague de Covid-19. New York accusé le coup hier après avoir été frappé dans la nuit de mercredi à hier par des pluies torrentielles et des inondations soudaines, des intempéries historiques qui ont fait au moins 44 morts dans la région après le passage dévastateur de la tempête Ida à New York. La police a dénombré au moins 13 morts, dont plusieurs personnes probablement prises au piège et noyées dans leur sous-sol. Le pire bilan est pour le New Jersey, avec au moins 23 personnes qui ont perdu la vie. Un temps à l'arrêt, le gigantesque réseau de métro de New York a partiellement redémarré hier après l'inondation de nombreuses stations. Du sport encore dans ce journal, avec du football, le Brésil poursuit son récital dans le tour préliminaire de la Coupe du Monde. Malgré un Neymar en demi-teinte et l'absence de plusieurs titulaires, il s'est imposé 1-0 devant le Chili hier soir à Santiago. La CSAO a recueilli sa 7e victoire en 7 matchs avant de défier l'Argentine dimanche à Sao Paulo. Jamais le Brésil n'avait réussi une telle entame dans ce tour préliminaire. A noter que l'ex-sédunois Matheus Cunha a fêté sa première sélection. Le champion olympique a été introduit à la 78e pour Gabriel Barbosa. Il honore ainsi sa première cape 1201 jours après avoir livré son dernier match avec le FC Sion.
En tennis, la L Spirit Open retrouve un format classique pour sa 5e édition.
Après une année 2020 spéciale Covid-19 qui avait bouleversé les plans des organisateurs, 2021 rime avec normalité. Si la crise sanitaire reste toujours d'actualité, le tournoi va pouvoir se tenir comme à l'accoutumée avec la présence du public. C'est donc 64 joueuses majoritairement classées au-delà de la 100e place mondiale qui vont s'affronter pour récolter les 80 points WTA qu'offre le rendez-vous montreusien. Le patron du L Spirit Open, Yannick Fadberg, revient sur les noms susceptibles de s'imposer sur la Riviera.
Nous, on espère toujours voilà, que nos jeunes joueuses fassent le pas aussi ici. On a des Simona Walters qui ont déjà joué depuis quelques temps, qui sont 200-300 mondiaux. Donc on espère vraiment les Duguerre. C'est toutes des joueuses suisses qui sont très prometteuses. Et au départ, quand on avait créé ce tournoi, c'était aussi un peu en pensant à elles, en espérant que voilà, en Suisse, on puisse leur permettre de grappiller ces précieux points WTA. Après, notre tête série 1, pour l'instant, elle est 100 mondiales, 102 WTA. Donc, c'est des joueuses qui ont été à l'US Open la semaine dernière. C'est Océane Dodin, qui est française, avec un jeu hyper attractif, hyper en cadence. On a aussi, naturellement, la Valaisanne, qui a déjà fait un beau parcours ici, vu qu'elle avait sorti Tina Bajinski. Et Ilena Inalbon, on espère que ça soit aussi un tournoi vraiment pour elle. Et en tout cas, elle a toujours bien joué ici à Montreux, donc on espère que ce sera encore le cas cette année.
Le mot de la fin, Yannick Fadberg, pour vous, organisateur, la météo, c'est aussi quelque chose d'important, on y pense. Qu'est-ce qu'il en est pour ce tournoi? Qu'est-ce qu'il en est pour la semaine prochaine? Est-ce que la météo est en votre faveur?
Oui, alors cet été, disons qu'on se méfie toujours de la météo parce que les prévisions changent quasiment chaque jour. Mais ça a l'air d'aller plutôt dans le bon, donc ça c'est quand même assez positif. Pour nous, il y a plusieurs journées qui sont assez clés. Par exemple, la finale, typiquement, s'il pleut le dimanche, c'est vite très très dommage parce qu'on perd le public, parce que c'est compliqué de reporter le match, parce que bah voilà, dimanche, le lundi, il y a d'autres tournois qui enchaînent. Donc ça, c'est des jours qui sont vraiment hyper importants. Et puis aussi en début de tournoi pour pouvoir avancer et éviter les doubles matchs la même journée. Donc oui, c'est un facteur important. Après, honnêtement, en septembre, on a toujours été assez chanceux. C'est souvent un mois qui est assez, assez positif au niveau de l'ensoleillement. Et on espère que ce sera encore le cas cette année.
Eh bien, on verra. Yannick Fadberg répondait à Ludovic Turin. La 5e édition du L Spirit Open se tiendra donc à Montreux dès lundi. Et ce, durant toute la semaine. La finale est prévue pour le 12 septembre prochain.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Latian Veillard, l'art d'imaginer et concevoir vos extérieurs. Réalisation et piscine. Latian Veillard, du rêve à la réalité.
Le temps sera assez ensoleillé cet après-midi, malgré des passages nuageux et puis la formation de cumulus en montagne suivie de quelques averses ou orages, notamment dans les Alpes. Il va faire au maximum 23 degrés en pleine, 21 à 1000 mètres. Et puis pour ce week-end, le temps sera assez ensoleillé pour samedi et dimanche. Pour demain samedi, des cumulus vont se former l'après-midi avec quelques averses ou orages. Et puis dimanche, toujours le développement de cumulus l'après-midi, mais le temps devrait rester généralement sec. C'est ce que nous dit Météo Suisse et on croise les doigts. Avant de vous dire que vous pouvez aller sur notre site internet, je vais quand même vous donner les températures de prévues pour ce week-end, de 14 à 24 degrés en pleine et de 10 à 21 degrés à 1000 mètres. Et voilà, je vous le dis, si vous voulez consulter la météo, eh bien rendez-vous en tout temps sur notre site radiochable.ch.